Alors, je suis avec, avec Régis Lindeberg, qui est venu exprès du Morvan pour ce rassemblement contre le projet d'usine à Pelé à Bugeavian. Régis, tu fais partie de l'association Adré Morvan, tu es un des fondateurs. Tu fais également partie du collectif SOS Forêt et du réseau pour les alternatives forestières. Beaucoup de cartes de visite. Alors, peut-être pour commencer, on peut parler du Morvan et donc de cette association Adré Morvan qui s'est montée précisément contre un projet industriel autour de la forêt il y a quelques années déjà. Est-ce que tu peux nous en dire?
Oui, c'était une très grosse scierie, on va dire. Ça aurait été la deuxième en taille de France. Et à coller à une fabrique de pellets, justement, et à un incinérateur. Bon, c'était le point assez spécifique. C'était à coller à un incinérateur qui produisait de l'électricité, et non pas une unité biomasse, comme ils appellent. Un incinérateur, parce qu'il avait l'autorisation de brûler jusqu'à 75% de déchets. Donc c'était un petit bonus qu'on n'a pas ailleurs, en général, qui était prévu chez nous, voilà.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet?
Eh ben, en fait, il y a un groupe d'habitants qui a commencé un petit peu à s'intéresser à la chose, un peu tardivement, on va dire, mais assez vigoureusement. Et donc, on a décortiqué un petit peu l'ensemble du dossier, et puis on s'est aperçu que c'était quand même assez catastrophique en tout terme, quoi. Catastrophique. Bon, ben, l'incinérateur générait une pollution locale d'incinérateur, quoi, comme un incinérateur ordure, en fait. Il avait les mêmes autorisations de polluer, même pire, souvent. Et puis, donc, c'était une méga scierie qui était la scierie de trousse. Qu'on a déjà deux grosses scieries industrielles en périphérie du Morvan. Ça serait fait une troisième. Et par rapport à la ressource, c'était quand même vraiment limite. Et du coup, on avait même la Fédération nationale du bois, qui n'est pas vraiment écologiste, qui nous soutenait de ce point de vue et qui disait à peu près la même chose que nous, c'est qu'en termes de ressources, cette usine-là allait en faire couler une autre. Donc déjà, ça commençait comme ça. On créait 100 emplois ici. Et quand on a dit aux élus, oui, mais c'est complètement débile, vous allez créer 100 emplois ici, puis potentiellement, ils vont disparaître ailleurs. Le président de la communauté de communes nous a dit, oui, mais non, bah, c'est pas grave. Hein. Moi, s'ils sont créés chez moi et qu'ils disparaissent ailleurs, ça m'est égal. Alors, donc voilà, c'était une politique fougnaque assumée, quoi. Enfin, une politique irresponsable, on peut dire, voilà. Et puis après, sur l'impact sur la forêt, donc la ressource n'était pas là, ça veut dire qu'il fallait chercher des bois très loin, potentiellement, enfin, d'après le porteur de projet à 500 km à la ronde. Donc voilà. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la limite 500 km, ça nous mène ici, quoi, dans le Limousin. Hein. Comme Gardanne d'ailleurs. Gardanne, il va chercher, initialement, son plan, c'était d'aller chercher jusqu'au Limousin. Et en fait, tout le monde a des grands cerfs comme ça qui se superposent en disant, mais là-bas, il y a la ressource, il n'y en a pas chez moi, mais il y en a là-bas, donc on va aller prendre là. Voilà. Et en fait, tous ces grosses unités biomasse, les ressources se superposent un peu dans le désordre. Voilà. Et puis après l'impact, c'est l'industrialisation de la forêt surtout. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ce n'est pas perçu tout de suite, parce qu'au début, on était un peu novice, mais en fait, en analysant les choses, on s'aperçoit vite que ça veut dire mettre en règle, en coupe réglée la forêt avec production intensive de petits bois pour alimenter cette usine qui était une canter, c'est-à-dire une machine qui scie que des petits bois. Et donc, ça veut dire, voilà, on fait de la production de bois à la chaîne, un peu comme on produit du maïs, quoi. Donc, on produit du Douglas à 40 ans, c'est un bébé le Douglas, quoi. Donc, voilà, on produit du Douglas à 40 ans, c'est du bois qui n'est pas de très bonne qualité, fait pour des usages courts du bois, alors qu'on pourrait laisser pousser plus et faire des charpentes, des choses qui durent, construire des maisons, voilà. Voilà, donc tous les. Ah, puis après, ce dossier, l'avantage, c'est que le dossier était quand même très, 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 très véreux. Tout était. Enfin, comme ils venaient s'installer un peu chez les bouseux, ils se sont dit, on y va, ils ne diront rien, ils ont l'habitude de s'écraser, donc on peut y aller. Donc ils ont fait n'importe quoi. Hein. Donc ça nous a bien servi quand même pour faire annuler le projet ensuite. Et donc un jour, on a vu débouler. Enfin, je vous passe. Je passe les détails juridiques et moult péripéties, mais un jour, il y a les gendarmes mobiles qui sont déboulés pour encadrer des bûcherons, pour couper un hectare. On s'est aperçu après que c'était pour une mesure compensatoire. Et donc, c'était une petite surprise de la préfète qui publiait l'arrêté en même temps qu'elle démarrait les tronçonneuses, quoi. Donc, Donc là, on s'est bien fait avoir sur ce coup-là, et du coup, les gars ont décidé de rester sur place. Donc on a fait une ZAD, on a occupé le terrain pendant 2 ans, jusqu'à ce que tous les recours juridiques qui étaient lancés par d'autres associations soient définitifs. Voilà. Et donc, ensuite, ils ont perdu sur quasiment tous les arrêtés ont été annulés parce que la destruction d'espèces protégées, parce que c'était un endroit où il fallait détruire les espèces. C'est une forêt, oui, j'ai oublié de dire, c'était quand même une forêt de feuillus mélangée de 100 hectares avec une zone humide. Voilà. Donc les espèces protégées, c'était les batraciens, les chauves-souris, etc. Notamment, enfin, il n'y avait pas que, mais les principales, les plus rares, on était là. Et donc il fallait un arrêté de destruction d'espèces protégées. Et c'est celui-là qui a été annulé déjà plusieurs fois en référé. Et voilà. Mais après, ils ont perdu sur la destruction d'espèces protégées, ils ont perdu sur l'eau, ils ont perdu sur le financement, c'est-à-dire que le projet n'était pas financé correctement, etc. Et l'année dernière, le principal financeur du projet s'est retrouvé en prison parce que c'était un gros transporteur routier qui s'appelle Yost, ça s'écrit J-O-S-T, oui, on voit des camions un peu partout de lui, donc c'est un des plus gros transporteurs européens. Et d'ailleurs, son projet générait plus digérer une activité qui n'était pas forcément hyper rentable, mais par contre, ça générait beaucoup de transport. Hein. Et donc lui, il exploitait les chauffeurs routiers des pays de l'Est dans ses camions, et sans, il ne payait pas les charges, il mettait 2 chauffeurs et il les faisait rouler 24 heures sur 24, etc. etc. Donc il, voilà. Donc voilà le genre de personnage en fait qui monte des projets chez nous. Et voilà. Donc tout l'ensemble du projet est tombé en fait comme un château de cartes une fois que la justice a mis son nez dedans. Voilà.
Donc ça c'était en quelle année donc l'abandon de ce projet?
Ça devait être en 2000. Bah la dernière, ça devait être 2015. Oui, 2015, le dernier truc juridique, je crois. Ouais.
Donc 2015, abandon du projet Hertzia. Et donc vous, ce collectif d'habitants qui avait animé cette mobilisation contre ce projet, bon, pour la plupart, j'imagine, vous n'étiez pas trop sensibilisé aux questions forestières et vous avez continué à travailler là-dessus. Alors qu'est-ce que cette lutte finalement ça a généré par la suite pour votre territoire?
Quand on a créé l'association au départ, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui habitait près de l'incinérateur et pas forcément près, mais disons qu'il y a des gens qui sont rentrés sur le sujet au départ de la pollution parce que c'était comme un incinérateur, enfin inquiets du projet industriel en tant que projet industriel. Et puis il y a d'autres gens qui sont venus plutôt dans le Morvan, un autre groupe qui était déjà révolté contre l'enrésinement et du Morvan, puisque le Morvan était un massif de feuillus avant et qui était enrésiné beaucoup après la guerre, et puis depuis ça s'est aggravé. Et donc, générant les coupes à blanc, etc., comme chez vous un peu. Et,
on connaît.
Assez comparable. Et donc, c'est ces deux groupes-là qu'ont créé l'association André-Morvan. Donc il y avait déjà une sensibilisation à la forêt, on va dire. Et ensuite, quand on est rentré dans le dossier, évidemment, naturellement, la forêt derrière tout ça, quoi, l'avenir de la forêt, la pérennité de la forêt. Et puis même le mot forêt, parce que une plantation industrielle de Douglas, c'est un peu ambitieux de les appeler des forêts, quoi. L'autre jour, on descendait, on faisait une visite... une petite visite forestière et on descendait avec un journaliste et il y avait d'un côté on avait une forêt de feuillus et de l'autre côté il y avait une forêt de Douglas, enfin une plantation industrielle de Douglas. Et je les ai fait arrêter, j'ai dit écoutez les oiseaux. On entendait, c'est des chants d'oiseaux à fond du côté de la forêt de feuillus et Douglas a rien. Quoi. Le désert, le silence total. Quoi. Donc... voilà. Et donc ces deux groupes-là qu'on crée, donc sur la forêt, il y avait quand même déjà un intérêt, et puis qui a vite été, on a vite compris que c'était la situation. Quoi. Donc on a racheté un café-restaurant, et on fait dans lequel on organise notamment des cafés forêts, mais aussi des tas de conférences, des films, du spectacle, des concerts, des théâtres. Et on fait aussi donc de la restauration bio, un bar bio, on fait une boutique bio circuit court, pour essayer de favoriser l'implantation d'agriculteurs bio en circuit court dans le Morvan, puisqu'il n'y en a pas beaucoup finalement. C'est un, endroit où on est assez en retard par rapport au reste de la France. Voilà.
Donc ce lieu qui s'appelle,
Il s'appelle le Carouège. Il est situé à Vauclay, dans le, on va dire, c'est dans le nord, le nord-est du Morvan, le quart nord-est. Voilà.
J'y suis allé, c'est super. Et par ailleurs, donc t'animes aussi avec d'autres, hein, le collectif SOS Forêt. Est-ce que tu peux nous parler de ce collectif qui, je crois, en tout cas, a pour une grosse partie de son activité la critique des méga-projets industriels, notamment liés à la biomasse.
On se rend bien compte assez vite quand on est dans un endroit précis, qu'on lutte contre un projet précis. Bon, on peut faire annuler le projet, comme on a fait nous, on peut y arriver. Mais en fait, le fond, c'est la politique forestière nationale, en fait. Et donc, si l'idée, c'était de se doter d'un outil qui puisse nous permettre d'essayer d'abord d'informer les gens. C'est le premier objectif qu'on s'est fixé. Alors, le tout premier objectif, c'était de se bagarrer contre la loi 2014, qu'on s'est créé en 2013. Et en même temps, il y avait cette loi, la loi LAF, sur l'agriculture, la forêt, qui est assez dramatique en termes de conséquences sur la forêt. Et donc, à l'époque, on avait essayé de se bagarrer au Sénat, notamment pour essayer d'obtenir quelques adoucissements. On avait obtenu au Sénat quelques succès qui ont été, grosso modo, annulés par l'Assemblée nationale derrière. Enfin, il reste une ou deux petites bricoles, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment dans l'urgence. Ensuite, on a organisé les assises de la forêt à Gardanne, pour symboliquement à Gardanne, qui est donc le gros projet biomasse français pour l'instant. Il y en a peut-être un plus gros qui est en préparation, mais bon. Et disons que si on arrivait déjà à convaincre les gens qui sont sensibles à l'écologie de ce qui se passe en forêt, parce que là, dans le Morvan et dans le plateau de Millevaches, je pense que les gens commencent à, enfin, le voient physiquement ce qui se passe. Ils ont des sérieux doutes sur la qualité de la gestion forestière, on va dire. Mais ce n'est pas du tout le cas dans le reste de la France, hein, notamment dans les villes, etc. Donc il y a plein de gens qui ont bien compris ce qui se passait en agriculture, mais ils n'ont pas compris ce qui se passait en forêt. Or, en forêt, il est en train de se passer la même chose qu'en agriculture, quoi. C'est-à-dire que, sauf qu'on est un petit peu plus en retard, quoi. C'est-à-dire que tout n'est pas encore détruit, mais ça ne va pas tarder, quoi. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment sur la mauvaise pente. Et justement, cette loi de 2014 et les déclinaisons des plans régionaux qui sont en train de se construire vont vraiment dans ce sens-là. Dans le sens de mobiliser plus, la forêt est sous-exploitée, ce qui est faux, enfin bref, et monter du projet biomasse tout autour. Enfin, il y a un autre plan, c'est le plan biomasse qui va être catastrophique, parce qu'en fait, la biomasse, c'est une hérésie, quoi. C'est une hérésie par rapport à ce que peut produire le bois.
C'est-à-dire ?
Ben, le bois, il faut le laisser grossir, les arbres, il faut les laisser grossir, il faut essayer de... En fait, ce qu'on devrait faire pour limiter le changement climatique et les émissions de carbone, ça veut dire que d'abord il faut laisser grossir au maximum les bois pour en tirer un maximum de charpentes, de choses qui durent pour faire des maisons, construire des choses avec, etc. Des meubles, tout ce qu'on veut. Et non pas de... Alors aujourd'hui on a de faire la direction inverse, c'est-à-dire on fait des rotations de plus en plus courtes parce que d'abord les scieries réclament des petits diamètres et puis en plus l'industrie a besoin pour la palette, le papier, l'agglomérat, on fait de plus en plus de choses avec le bois et donc et du bois bas de gamme. Et donc c'est du circuit carbone court, que ce soit le papier, la palette, l'aggloméré, toutes ces choses-là, c'est des circuits très courts de vie, quoi. Donc en fait, ça veut dire qu'on relâche assez rapidement le carbone de cet arbre. Alors que si on l'avait laissé grossir, on aurait pu fabriquer des choses durables avec. Donc ça, c'est le premier point. Ça devrait être une obsession. Ça devrait être une obsession de nos gouvernements, puisque c'est là que c'est le potentiel de stockage du carbone, il est en forêt avant toute chose, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la sylviculture qui va avec. C'est-à-dire que même si on arrive à faire grossir les arbres et à stocker du carbone, ensuite, une fois qu'il est mort, de conserver le carbone de l'arbre sous forme de construction, si on coupe la forêt à blanc et qu'on rentre avec des engins partout, ça veut dire qu'on va déstocker le carbone du sol. Et en fait, il y a autant de carbone dans le sol que dans l'arbre. Enfin, il y a autant, des fois il y en a beaucoup plus, des fois il y en a un petit peu moins.
Parce que quand on fait une coupe rase,
Bah, quand on fait une coupe rase, ça veut dire qu'on coupe la totalité des arbres. Ça veut dire qu'il y a des machines qui rentrent dedans pour prélever les arbres, qui en général, qui dessouchent les arbres, qui font des andins, etc. Ça veut dire que le sol est quasi labouré, quoi. C'est pour ceux qui sont sensibles, qui connaissent le problème en agriculture, c'est comme si on transformait une prairie permanente en champ de maïs, quoi. Voilà. C'est ça ce qu'on fait quand on fait une coupe à blanc derrière une forêt de feuillus, qu'on plante du Douglas, ou même quand on fait une coupe à blanc de Douglas pour implanter du Douglas, quoi.
Donc ça libère le carbone qui est dans le sol.
Ben, ça libère la quasi-totalité du carbone qui est dans le sol. Et donc ça veut dire que chez nous, parce que bon, chez vous, vous avez d'origine beaucoup de résineux, et chez nous, on a du feuillu, enfin on a encore du feuillu, et ils continuent de convertir des forêts de feuillus en forêt de Douglas, c'est-à-dire qu'ils coupent à blanc la forêt de feuillus, et ensuite ils replantent du Douglas. Mais là, ça veut dire que dans une forêt de feuillus qui était un peu abandonnée chez nous, parce que c'est souvent le cas, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur, alors donc voilà, ils n'ont pas de valeur de pécuniaire, donc, mais ils ont souvent une grande valeur écologique, parce que justement, on n'y a pas fait grand-chose dedans. Et donc on les coupe à blanc. Comme le bois, il n'a pas une grande valeur financière, souvent ça part en trituration, c'est-à-dire process industriel à circuit court en carbone. Et c'est des relâchements rapides de carbone, on va dire, pour le carbone qui est dans l'arbre. Et comme on procède par coupe à blanc, on libère aussi le carbone qui est dans le sol. Et après, on replante du Douglas et on dit oui, c'est vachement bien, parce que le Douglas, il va pousser vite, il va capter plus de carbone. Alors déjà, c'est hyper contestable comme affirmation. Il y en a plein de scientifiques qui ont prouvé le contraire. Mais indépendamment de ça, c'est aujourd'hui qu'il faut limiter les émissions de carbone. Or là, ça veut dire qu'on déstocke 150 ans de carbone, la forêt, admettons, elle a 150 ans. Donc, voilà. On libère 150 ans de carbone de l'arbre, on libère 150 ans de carbone du sol et on replante des Douglas qu'on va récolter dans 40 ans. Et le peu de carbone qu'ils auront, parce qu'à 40 ans, ils stockent quasiment rien, parce qu'il n'y a rien qui tombe de l'arbre. Parce que le carbone, c'est la décomposition des branches, des feuilles, etc. Donc là, le peu qu'il aura stocké dans ses racines et tout ça, on va à nouveau le détruire, enfin, le relâcher dans l'environnement par le type de sylviculture qu'on utilise, c'est-à-dire la coupe à blanc. Donc en fait, là, on est en train, en faisant ça, sous prétexte de faire de la biomasse, et enfin, la biomasse donc aggrave encore cette situation, parce que la biomasse, on n'a même pas besoin d'arbres, hein, on peut prendre des tiges, hein, on les coupe à n'importe quel âge, et puis en avant dans la plaine, quoi, c'est vraiment... Et donc là, c'est exactement le chemin inverse de ce qu'il faudrait faire pour... Donc on marche sur la tête, quoi, c'est-à-dire qu'avec des subventions qui sont faites pour limiter les émissions de carbone et le changement climatique, on est en train de l'aggraver drastiquement, en fait, hein. D'ailleurs, on va s'en apercevoir. Hein. D'ailleurs, on commence à s'apercevoir que les forêts, à force d'industrialiser, les forêts commencent à relâcher plus de carbone qu'elles en stockent. C'est les dernières nouvelles. Donc, mais faut pas s'étonner. Hein. Quand on industrialise la forêt, c'est comme l'agriculture. Hein. C'est le même processus, exactement.
Alors là, aujourd'hui, tu es présent justement pour soutenir cette lutte locale donc contre le projet CIVB. Lieu d'ingénieur, donc d'usine appelée sur les communes de Bugeavion. Pourquoi tu as tenu justement à apporter ton soutien?
Bah d'abord parce que psychologiquement ça fait du bien quand il y a des copains qui viennent voir. Nous on l'a vécu quand on avait quand il y a des gens qui venaient nous soutenir et tout ça, bah, ça nous reboostait pour repartir se bagarrer, etc. Donc ça fait déjà vachement du bien. Et puis en plus voilà, ils nous ont demandé, on est venu. Voilà, et puis on a discuté un peu pour essayer de faire partager un peu notre expérience et puis que ça puisse leur servir à eux, etc. Voilà. Et puis faire partager nos connaissances, notre réseau, et voilà.
Il y a un truc quand même dans ce sujet qui est quand même fort, c'est tous les arguments écologiques, verts, qui habillent tous ces projets-là. Comment on fait pour démystifier ça?
Comment ? Bah ça, c'est une vraie question qui nous taraude en permanence. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut, au bout d'un moment, en fait, c'est quand même... En fait, la construction, moi, j'ai le sentiment, la construction, ce qu'on nous vend aujourd'hui de la part de l'État, de la part de la filière, voire de la part de l'ONF, de l'administration de l'ONF, c'est quand même... on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils utilisent des arguments, ils détournent, finalement... En fait, c'est un peu comme, comme faisait l'industrie du tabac dans les années 50, quoi, qui nous disait que c'était super bon pour la santé de fumer, quoi. Donc nous, ils nous disent c'est super bon pour la santé du climat de faire des usines à biomasse et de faire voilà et de planter du Douglas partout, quoi. Mais je veux dire, c'est de la folie, quoi. C'est un mensonge. Et donc en fait, dès qu'on rentre un petit peu dans le dossier, on s'aperçoit vite de ça. Puis en fait, c'est assez logique, en fait. C'est assez logique, hein. On retourne les sols, voilà. Et quand on connaît le sujet agricole, on regarde ce qui se fait en forêt, on voit bien que c'est le même processus. Donc le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à l'expliquer aux gens. Parce que les gens, ils n'en ont pas conscience. On leur a vendu qu'en France, la forêt, c'était... En fait, le critère essentiel, quand même, dans la forêt française, c'est de dire si on coupe un arbre, on en replante un. Et tout le monde en est resté là, quoi. Mais je veux dire, c'est complètement débile, en fait. La gestion forestière qui tient la route, c'est qu'on coupe un arbre, on fait rien derrière et on ne voit pas qu'on a coupé un arbre. Parce qu'on a coupé un arbre et pas la forêt. On a coupé quelques arbres dans la forêt. On les a sortis en évitant d'abîmer les autres, etc. Et puis on repasse 6 mois après, on ne voit même plus qu'on a coupé un arbre. Et ça veut dire que la forêt est un couvert continu, l'écologie elle est restée, tout est resté, le carbone il est resté dans le sol. Et on a prélevé un arbre et on a gagné beaucoup d'argent avec, parce que souvent les gens qui font ça, ils arrivent à tirer le maximum des essences, etc., en faisant de la forêt, de la fuite déjardinée, on appelle ça, tout ça, voilà. Et donc ça, c'est, il y a matière à faire bien, à faire à la fois servir, à faire rentrer de l'argent chez le propriétaire, à faire sortir du bois pour au service des hommes, à maintenir les fonctions écologiques de l'eau, du carbone, de la biodiversité, etc. Donc tout le monde, le bonheur pour tout le monde. Mais en fait, non, chez nous, non, on a décidé qu'on allait industrialiser comme on a fait, c'est de l'idéologie. En fait, voilà, les mecs au gouvernement, ils font de l'idéologie, ils font pas du tout ils ont été formatés pour faire de l'industrie, ils font de l'industrie, quoi. Et d'ailleurs, c'est les gens qui sont manettes, c'est les mecs, ils ont fait une formation de l'école des mines. Alors voilà, donc ils considèrent la forêt comme une mine, voilà, donc ils ont un minerai, ils viennent le prendre, voilà, ça s'arrête là, le raisonnement, il est là. Alors bon, dans la forêt... Bah en fait, on prend le minerai, puis on en remet un petit minerai, puisqu'il va repousser tout seul. Donc on remet un petit, quoi. On dit on en remet un petit, mais en fait, c'est une connerie, quoi. Déjà, il faut que les gens ils comprennent que quand on replante un arbre, normalement, c'est qu'il y a eu un problème, quoi. On ne devrait pas avoir besoin de replanter un arbre, en fait. Si on gère bien une forêt, il n'y a pas besoin de replanter. Bon, sauf s'il y a une maladie, il peut y avoir des cas particuliers. Dans la majorité des cas, en fait, on pourrait très bien... Et d'ailleurs, c'est ce que font plein de pays. La Suisse, ils ont interdit la coupe à blanc, et ils ont une densité de bois sur pied qui est bien supérieure à la nôtre. Voilà, il y a d'autres pays européens comme ça, hein. La coupe à blanc est interdite et ils ont plus de bois, plus de qualité et à la fin ça rapporte même plus d'argent, hein. Sauf que c'est sur la durée, que ça répond pas au lobby des industriels et que voilà, c'est de la facilité. Ce qu'on est en train de faire, c'est de la facilité à court terme, quoi, au détriment de l'environnement, de l'avenir, des sols, du climat, de l'eau, voilà. Des fois je suis énervé, des fois ça m'énerve d'en parler.